Voilà, donc nous allons continuer notre culte avec un passage ce matin dans 1 Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, les versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alors, si vous étiez là il y a quelques semaines, vous vous souvenez peut-être, je mentionnais le fait que lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais enfant et que je lisais et qu'on lisait à l'église parfois des textes, des épîtres, ça semblait être un monde complètement étranger, un monde qui n'avait plus rien à voir avec le monde dans lequel nous, on vit, et on regardait des situations en se disant, mais comment quelque chose pareil pourrait exister? Mais j'avais donc souligné que, compte tenu de l'évolution de nos sociétés de ces dernières années, finalement, on a rattrapé le temps passé depuis que les apôtres ont écrit ces lettres, et finalement, on se retrouve aujourd'hui dans une société qui ressemble en beaucoup de points à la société que connaissaient les apôtres à l'époque du Nouveau Testament, et que donc maintenant, nous lisons ces textes, et on a l'impression que les apôtres sont en train de parler vraiment des situations dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va regarder encore un exemple de cela. Parce que on peut lire ces avertissements bibliques concernant des faux prophètes, concernant de faux enseignants au sein de l'Église, tout en ayant du mal à croire que cela puisse encore exister de nos jours. Peut-être à l'époque des apôtres, peut-être dans le Moyen-Âge, mais pas au Luxembourg en 2023, n'est-ce pas? Mais quand on regarde les textes bibliques, il y a plusieurs mises en garde. L'apôtre Jean, dans 1 Jean 4, nous met en garde. L'apôtre Pierre le fait également dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 et 2, quand il a écrit « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » L'apôtre Paul, dans les mêmes mises en garde, 1 Timothée chapitre 4, versets 1 et 2, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et pour clôturer toutes ces mises en garde, Jésus également met ses disciples en garde en Marc chapitre 13 à partir du verset 21. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais bon, peu de danger, n'est-ce pas, que chez des chrétiens du 21e siècle vivant au Luxembourg avec la Bible entre nos mains, avec le Saint-Esprit en nous comme guide, avec toute notre éducation. Jamais, n'est-ce pas, au Luxembourg aujourd'hui, quelqu'un pourrait tomber dans un piège. C'est des mises en garde concernant l'histoire. Ben, il semblerait qu'en tout cas, certaines personnes ne sont pas de cet avis et trouvent que ça vaut toujours la peine d'essayer de piéger des gens avec de fausses prophéties, de faux enseignements. Car cette semaine même, j'ai pu récupérer le traité d'un ministère qui a été distribué dans des boîtes aux lettres à Luxembourgville, donc au mois de juin 2023. Donc, les faux prophètes sont bien vivants, bien présents au Luxembourg. Et donc, les mises en garde de la part de Jésus, de la part des apôtres, restent tout autant d'actualité pour nous. Aujourd'hui, dans notre contexte, Jésus nous dit « Soyez sur vos gardes ». D'autant plus que donc, en lisant ce traité, cette personne réclame faire partie de la tradition pentecôtiste. Cite le réveil dans Azusa Street aux États-Unis au début du XXe siècle, cite les fondateurs du mouvement pentecôtiste comme étant donc ses origines. Mais on va voir par la suite que donc, compte tenu du contenu, je n'hésite pas à dire qu'il s'agit d'un faux prophète distribué donc dans les boîtes aux lettres à Luxembourgville. Du coup, ce matin, je vais m'approprier les paroles de l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 1 versets 12 et 13 lorsqu'il dit aux chrétiens « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Donc, Pierre souligne un principe important pour tout responsable d'Église. Nous avons ce devoir de tenir l'Église en éveil par des avertissements, rappelant ces choses que certes on connaît, mais dont on a besoin de se rappeler. Comme disait Jésus, « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Nous connaissons donc ces choses, mais il est important de les repasser dans nos cœurs, dans notre mémoire, pour ne pas tomber dans ces pièges que Jean, Pierre, Paul, Jésus soulignent dans les textes bibliques. Alors, ce qu'on voit dans ce traité, c'est que tout ce qu'il enseigne, ce monsieur, est fondé sur des révélations reçues de la part d'anges qui seraient venus lui parler. C'est là où justement cet avertissement de Jésus en Marc 13 est très intéressant, parce qu'il parle de ces faux prophètes en disant « Ils feront des prodiges et des miracles au point de séduire les élus, s'il était possible. » Donc, Jésus nous met en garde en disant « Des prodiges et des miracles ne suffisent pas pour faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Le danger, lorsque on est chrétien pentecôtiste, convaincu que les choses surnaturelles existent, que le Saint-Esprit agit par des dons et par des miracles, c'est que parfois on peut regarder ces choses et dire « Ah ben si ça se passe comme ça, s'il y a cette confirmation miraculeuse, alors ça doit être juste. » Mais Jésus nous dit le contraire. C'est derrière pour cela que certaines églises ont décidé de rejeter les dons de l'esprit, de rejeter tout ce qui est surnaturel, parce qu'ils disent il y a du faux, donc pour éviter le faux, le plus simple c'est de tout balayer, de tout empêcher, et comme ça on ne risque pas de se faire avoir par ces faux prophètes avec des esprits séducteurs, avec des prodiges et des miracles cherchant à séduire des élus. Quand on réfléchit, c'est une réaction humainement parlant, tout à fait compréhensible, n'est-ce pas? On veut se protéger, on veut protéger l'Église, donc si on évite tout cela, on va forcément éviter le faux. C'est une réaction qui est humainement parlant compréhensible, mais qui est effectivement humain. Les apôtres et le Seigneur nous donnent un autre conseil quant à comment se protéger du faux. 1 Jean chapitre 4, verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il ne dit pas interdisez tout ceci, mais il dit ne soyez pas bêtes, sachez qu'il y a non seulement du vrai, mais du faux. Et donc, n'ajoutez pas automatiquement foi à tout esprit. Ce n'est pas, dit Jean, parce que c'est un esprit qui s'exprime ou parce que c'est du spirituel, parce que c'est du miraculeux, qu'il faut tout croire. Il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou non, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. L'apôtre Paul, dans le même conseil, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 21, lui, il dit, face justement à cette réaction humaine, de dire, bon, ben, le plus simple, c'est de ne rien laisser passer, lui, il dit, n'éteignez pas l'esprit, et ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, et retenez ce qui est bon. Et aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 14, verset 29, il dit « Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. » Il dit « N'interdisez pas ces choses, ce n'est pas ça la solution, parce que comme ça, certes, vous éviterez le faux, mais vous éviterez le vrai aussi, et donc vous n'aurez pas toutes ces bénédictions que Dieu a prévues à travers les dons spirituels, à travers ce que le Saint-Esprit désire communiquer. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est important, comme on a souligné dans la semaine de prière, de chercher le baptême de l'Esprit, de chercher les dons de l'Esprit, de cultiver ces dons dans notre vie, parce que Dieu désire bénir son Église à travers ces choses. Donc, tout éliminer n'est pas bon, parce qu'il y a du vrai, et non pas uniquement du faux. Mais regardons les verbes qu'emploient les apôtres. Éprouver, examiner, juger. La Bible nous dit, c'est ça la mise en garde. C'est ça le moyen de se protéger de ces faux prophètes, de ne pas tomber dans le piège. C'est d'éprouver, d'examiner, de juger, et puis de retenir ce qui est bon, de retenir ce qui vient réellement du Saint-Esprit et qui nous fera du bien et qui nous approchera du Seigneur, nous aidera à continuer, nous encouragera, nous édifier pour continuer notre marche chrétienne dans les voies du Seigneur. On a donc besoin de jugement, du discernement, parce que la Bible nous dit donc que ce qui est charismatique, spirituel, surnaturel, miraculeux, n'est pas forcément une garantie de l'œuvre de l'esprit, parce qu'il faut être conscient qu'il y a du faux à côté du vrai. D'ailleurs, on le voit tout au long de l'histoire biblique. Lorsque Moïse se présentait devant Pharaon, Dieu lui donnait des miracles à pouvoir accomplir pour renforcer son message. Mais nous voyons qu'en même temps, les magiciens d'Égypte étaient aussi capables de reproduire la plupart de ces miracles. À l'époque des prophètes, on voit que tant il y avait de vrais prophètes qui apportaient la parole de Dieu à son peuple, autant il y avait de faux prophètes qui étaient motivés par des esprits de mensonge et qui donc cherchaient à envoyer le peuple dans une autre direction que la direction de Dieu. Et puis donc nous avons tous ces mises en garde que nous venons de lire de la part de Jésus, de la part des apôtres concernant le fait qu'aujourd'hui encore, ces personnes, ces ministères, ces choses existent encore. Donc il ne faut jamais suivre simplement le miraculeux, parce que Jésus nous met en garde en disant « Ils seront capables de faire du miraculeux au point de séduire les élus, si cela était possible. » Donc, avant tout, la Bible nous dit « Nous devons contrôler le message qui se trouve derrière ces miracles, le message qui est communiqué en même temps de ces miracles, qui est confirmé, entre guillemets, par ces miracles. » On le voit dans Actes chapitre 17, par exemple, dans le verset 10, après que Paul et Silas avaient été maltraités à Thessalonique, c'est marqué que aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ce qui est intéressant lorsqu'on tient en compte les méthodes de l'apôtre Paul quand il arrivait dans une ville. Il nous dit dans ses lettres que lorsqu'il arrivait quelque part, d'accord, certes, il allait à la synagogue chercher les Juifs, apporter ce message de Jésus, le Messie, au peuple juif. Mais quand on lit par exemple la lettre aux Corinthiens, il disait « Je ne suis pas venu uniquement avec des arguments persuasifs, mais aussi avec l'action du Saint-Esprit confirmant les paroles avec des signes, avec des prodiges, donc avec du miraculeux. » Mais ce qu'on voit dans ce texte en Actes 17, c'est que Luc souligne le fait que ces gens n'ont pas dit « Ah ben il a pu produire un miracle, donc c'est forcément la vérité. » À côté de tout ce que Paul faisait, ils ont écouté de près ce qu'il avait à dire. Et puis, ils ont regardé, est-ce que ce qu'il dit est conforme aux Écritures? Est-ce que c'est la vérité qu'il nous dit? D'accord, ils étaient contents sans doute de s'il y avait des personnes qui étaient guéries, s'il y avait des miraculeux qui se produisaient, mais ils disaient, la preuve si ce qu'il nous dit est vrai, c'est de voir si cela correspond au texte des Écritures. Et ce principe donc reste le même pour nous, d'où éprouver les esprits. Éprouver comment? Non pas par le fait est-ce que le miracle se produit ou non, mais éprouver est-ce que c'est conforme à ce que Dieu nous a déjà dit. Examiner pour savoir si c'est vrai. Comment? Comme les Bériens, en regardant par rapport au texte pour voir est-ce que c'est conforme au Dieu de la Bible. Et donc, juger ce qui est dit, je vous encourage vivement, comme je dis souvent, sur tout ce que je peux vous dire d'ici, d'examiner, de juger, de voir est-ce conforme à ce qu'on trouve dans la Bible, parce que c'est ça le seul moyen de juger, sinon je pourrais vous raconter tout et n'importe quoi. Et bon, ceux parmi vous qui trouvent que je suis sympa vous dire « Ah bah, c'est Paul qui l'a dit, donc forcément c'est vrai. » D'autres vont dire « Ah bah, c'était le pasteur qui l'a dit de la chair, donc forcément c'est vrai. » Le seul moyen que vous avez pour savoir si c'est vrai, c'est de regarder dans la Bible et dire « Est-ce vrai ? Est-ce ça que nous voyons ? Est-ce le Dieu de la Bible qui est prêché ?» Ça vaut aussi pour les dons spirituels. Si on doit les juger, c'est écouter et voir est-ce que cela correspond à la nature et au cœur du Dieu qui s'est révélé à travers les prophètes et les apôtres, à travers son Fils dans la parole de Dieu. Sinon, on ne doit pas le retenir, nous disent les apôtres. On ne retient que ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est donné de Dieu pour nous et qui est conforme à sa parole. Pour ça que dans Galates chapitre 1, l'apôtre Paul dit aux chrétiens Galates, « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel a annoncé un évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché. » Parce qu'en fait, donc l'apôtre Paul est allé évangéliser cette région, il a implanté des églises, mais après son départ, d'autres enseignants sont venus en leur disant « Ah ben Paul, il vous a donné une partie de la vérité, mais nous sommes venus pour compléter le message de Paul, pour vous donner toute la révélation de Dieu, pour vous donner les parties que lui ignore. » Donc lui, il dit « Si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc Paul nous donne un principe qu'on peut appliquer justement à ce traité que j'ai récupéré cette semaine. Peu importe si quelqu'un dit « c'est un ange qui est venu me révéler toute la vérité et compléter » ce dont vous avez besoin de savoir, Paul dit, peu importe, si cela s'écarte de ce que vous avez reçu de ma part, et lui, il nous dit que son message est conforme au message de l'évangile prêché par les autres apôtres, qu'il soit anathème. Si donc, quelqu'un nous dit, « Ah ben, le Saint-Esprit m'a donné une parole », où un ange m'a visité et m'a révélé cette vérité et que cela ne correspond pas au texte qui nous a été donné dans la Bible, on ne doit pas le retenir simplement parce que la personne emploie le nom de Saint-Esprit ou dit que tel ange est venu lui parler. C'est ça le sens de juger les prophéties, d'éprouver, d'examiner toutes choses. Et donc, les apôtres suggèrent dans leur mise en garde que très souvent, ces fausses prophéties tourneront autour de Jésus, de sa personne, de qui il était, c'est ce que nous dit Jean dans son passage, ou comme Paul souligne dans la lettre aux Galates, autour de la question du salut et de la suffisance de Jésus pour être sauvé, qui vont dire « oui, Jésus, d'accord, mais… » C'est ce que les gens ont fait en Galatie. Ils ont dit, oui, ce que Paul vous a dit n'est pas faux. Il vous faut Jésus. Oui, Jésus-Christ est mort pour vous sur la croix, mais tout seul, il ne suffit pas pour que vous soyez sauvés. Si vous voulez être sauvés, il vous faut Jésus-Christ et notre enseignement. Jésus-Christ plus la circoncision. Jésus-Christ plus votre obéissance à la loi. Mais Paul dit, à partir du moment où vous partez sur cette ligne-là, vous n'êtes plus sous la grâce parce que vous n'êtes plus en train de vous accrocher à Jésus-Christ et lui seul pour être sauvé. Que dit Paul? Il dit, mon message, c'était Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié comme source de salut. Rien d'autre pour être sauvé. Ces gens-là disaient, il faut encore autre chose. Si je vous parle de ce traité aujourd'hui, c'est entre autres parce que j'étais tellement époustouflé par la franchise du message, de ce message. Dernier point donc du traité, pourquoi doit-on croire forcément en ce prophète pour être sauvé? Le texte dit, aujourd'hui, si tu rejettes ce prophète, tu iras en enfer après ta mort. Il ne va pas avec le dos de la cuillère. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle et les clés du royaume des cieux pour votre salut aujourd'hui. J'ai failli tomber à la renverse en disant une proclamation aussi claire et nette. On lit ces textes dans les apôtres, on dit bon bah, il brosse bien large le tableau pour impressionner. Mais là, on a quelqu'un qui distribue à Luxembourgville en 2023 un texte disant c'est moi qui a les paroles de la vie éternelle et les clés du royaume des cieux pour votre salut. Il dit oui, Jésus-Christ est mort. Moi, je ne suis pas mort sur la croix pour vous, dit-il. C'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix. D'ailleurs, très souvent, l'ennemi fait un savant mélange de vérité et de mensonge pour faire baisser nos gardes. Il dit, Jésus-Christ est mort pour vous, mais la mort de Jésus-Christ seul n'est pas suffisante. Il vous faut croire en lui, mais il vous faut croire en moi, parce que c'est moi qui a les paroles de la vie éternelle et les clés du royaume des cieux pour votre salut aujourd'hui. Jésus-Christ nous dit, c'est moi seul qui a les paroles de la vie éternelle. Quelle était la réaction des apôtres devant lui? Seigneur, à qui d'autre irions-nous qu'à toi? Toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Paul s'est battu en Galatie pour dire Jésus-Christ crucifié seul suffit pour que vous soyez sauvés. C'est en croyant en lui que vous atteignez la justification. C'est lui qui vous sauve. C'est lorsque on met sa foi en lui que le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau. Nous n'avons besoin de devenir les esclaves de qui que ce soit d'autre pour être sauvés. Si ce matin, vous pouvez être sauvés, ce n'est pas parce que vous êtes là ce matin, le dimanche matin, à la rencontre. Cela ne compte pas pour être sauvé. On espère pouvoir vous aider. Mais vous n'êtes pas sauvé parce que vous venez à la rencontre. Ce n'est pas parce que la rencontre appartient aux assemblées de Dieu que vous serez sauvé. Les assemblées de Dieu ne peuvent pas sauver. Juste comme l'église locale, prêcher la vérité, annoncer, guider les personnes vers Jésus-Christ qui lui seul est la source du salut. La seule chose, le seul fondement, la seule prétention que nous pouvons avoir aujourd'hui si nous voulons être sauvés, c'est que Jésus-Christ est mort pour moi. Et son sang a été, en étant versé, m'a purifié de tous mes péchés. C'est le seul fondement. Mais gloire à Dieu, c'est un fondement qui est suffisant pour avoir l'assurance du salut. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Pour ça que l'apôtre Pierre peut dire qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en Jésus-Christ. Soyons assurés ce matin que si nous avons cru en Jésus-Christ, cela est suffisant pour être sauvés. Parce qu'il nous a dit que c'est en mettant notre confiance en lui. Si nous croyons dans notre cœur que Jésus-Christ est mort à notre place, qu'il a porté sur son corps sur la croix notre péché, qu'il a pris pour nous la condamnation de la mort qui est le salaire de notre péché. Cela est suffisant pour être sauvé. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Lui, il est le sacrifice acceptable aux yeux du Père pour notre salut. C'est pour ça que la Bible peut nous dire, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés que le nom de Jésus-Christ. Les apôtres mettent les chrétiens en garde en disant, si qui que ce soit vient vous dire, vous avez besoin de croire en moi pour être sauvé en plus de Jésus, ne devenez pas leur esclave. Jésus-Christ est venu afin de nous libérer. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne devenez plus l'esclave de qui que ce soit. Paul va dire, si vous ajoutez quoi que ce soit d'autre à l'œuvre de Jésus-Christ, alors vous serez déchus de la grâce. Parce que c'est lui seul le fondement de notre salut. Donc ce matin, écoutons la voix du Saint-Esprit. Éprouvons les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Examinons et retenons ce qui est bon. Et si nous avons retenu ce qui est bon de la part des apôtres, cet évangile qu'ils nous ont transmis, ayons cette assurance qu'il ne nous manque plus rien. Christ est mort pour nous et Christ est suffisant. Il nous donne accès à toutes les bénédictions célestes que Dieu a prévues pour nous en Jésus-Christ. On a lu tout à l'heure dans Philippiens, c'est au nom de Jésus que tout genou fléchira. C'est Jésus que toute langue reconnaîtra comme seul Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc ce matin, ne rendons pas la grâce de Dieu à notre égard vaine, mais accrochons-nous à Jésus-Christ. Si vous ne l'avez jamais fait, venez à Jésus-Christ pour être sauvés. Car la Bible nous dit qu'en lui, nous avons cette offre du salut. Qu'en venant à lui, nous avons la garantie de Dieu que nous serons sauvés pour l'éternité. Tout ce qu'il faut, c'est croire en lui. C'est par lui que nous parvenons à la justice. Par lui, c'est lui le chemin pour nous conduire au Père. Empruntons donc ce chemin, restons sur ce chemin. Ne laissons qui que ce soit d'autre nous conduire sur des fausses pistes, mais restons accrochés à notre Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs et notre Sauveur.